Chapitre 18. Le colonel cherche à se débarrasser d'un million qui le gêne. Fougas avait quitté Paris pour Berlin le lendemain de son audience. Il mit 3 jours à faire la route, car il s'arrêta quelque temps à Nancy. Le maréchal lui avait donné une lettre de recommandation pour le préfet de la Meurthe, qui le reçut fort bien et promit de l'aider dans ses recherches. Malheureusement, la maison où il avait aimé Clémentine Pichon n'existait plus. La municipalité l'avait démolie vers 1827 en perçant une rue. Il est certain que les édiles n'avaient pas abattu la famille avec la maison, mais une nouvelle difficulté surgit tout à coup. Le nom de Pichon surabondait dans la ville, dans la banlieue et dans le département. Entre cette multitude de pichons, Fougas ne savait à qui sauter au cou. De guerre lasse et pressé de courir sur le chemin de la fortune, il laissa une note au commissaire de police. Recherché sur les registres de l'état civil et ailleurs, une jeune fille appelée Clémentine Pichon. Elle avait 18 ans en 1813. Ses parents tenaient une pension pour les officiers. Si elle vit, trouvez son adresse. Si elle est morte, s'enquérir de ses héritiers. Le bonheur d'un père en dépend. En arrivant à Berlin, le colonel apprit que sa réputation l'avait précédé. La note du ministre de la guerre avait été transmise au gouvernement prussien par la législation de France. Léon Renault, dans sa douleur, avait trouvé le temps d'écrire un mot au docteur Hirtz. Les journaux commençaient à parler et les sociétés savantes à s'émouvoir. Le prince régent ne dédaigna pas d'interroger son médecin. L'Allemagne est un pays bizarre où la science intéresse les princes eux-mêmes. Fougas, qui avait lu la lettre du docteur Hirtz annexée au testament de M. Meiser, pensa qu'il devait quelques remerciements au bonhomme. Il lui fit une visite et l'embrassa, en l'appelant l'oracle d'Épidaure. Le docteur s'empara de lui, fit prendre ses bagages à l'hôtel et lui donna la meilleure chambre de sa maison. Jusqu'au 29 du mois, le colonel fut choyé comme un ami et exhibé comme un phénomène. 7 photographes se disputèrent un homme si précieux. Les villes de Grèce n'ont rien fait de plus pour notre pauvre vieil Homère. Son Altesse Royale, le prince régent, voulut le voir en personne naturelle et pria M. Hirtz de l'amener au palais. Fougas fit un peu tirer l'oreille. Il prétendait qu'un soldat ne doit pas frayer avec l'ennemi. Il se croyait encore en 1813. Le prince est un militaire distingué qui a commandé en personne au fameux siège de Rastatt. Il prit plaisir à la conversation de Fougas. L'héroïque naïveté de ce jeune grognard le ravit. Il lui fit de grands compliments et lui dit que l'empereur des Français était bien heureux d'avoir autour de lui des officiers de ce mérite. « Oh, ils n'ont pas beaucoup, » reprit le colonel. « Si nous étions seulement 400 ou 500 de ma trempe, il y a longtemps que votre robe serait dans le sac. » Cette réponse parut plus comique que menaçante, et l'effectif de l'armée prussienne ne fut pas augmenté ce jour-là. Son Altesse Royale annonça directement à Fougas que son indemnité avait été réglée à 250 000 francs et qu'il pourrait toucher cette somme au trésor dès qu'il le jugerait agréable. « Monseigneur, répondit-il, il est toujours agréable d'empocher l'argent de l'étranger, mais tenez, je ne suis pas un turiféraire de Plutus. Rendez-moi le Rhin et pas ce nez, je vous laisse vos 250 000 francs. » « Y songez-vous, » dit le prince en riant, « le Rhin est pas au Seine. »« Mais le Rhin est à la France et présent à la Pologne, bien plus légitimement que cet argent n'est à moi. »« Mais voilà mes grands seigneurs, ils se font un devoir de payer les petites dettes et un point d'honneur de nier les grandes. » Le prince fit la grimace et tous les visages de la cour se mirent à grimacer uniformément. On trouva que M. Fougas avait fait preuve de mauvais goût en laissant tomber une miette de vérité dans un gros plat de bêtises. Mais une jolie petite baronne viennoise qui assistait à la représentation fut beaucoup plus charmée de sa figure que scandalisée de ses discours. Les dames de Vienne se sont fait une réputation d'hospitalité qu'elles s'efforcent de justifier partout et même hors de leur patrie. La baronne de Marco Marcus avait encore une autre raison d'attirer le colonel. Depuis 2 ou 3 ans, elle faisait collection d'hommes célèbres en photographie, bien entendu. Son album était peuplé de généraux, d'hommes d'État, de philosophes et de pianistes qui s'étaient donnés à elle en écrivant au bas du portrait « Hommage respectueux ». On y comptait plusieurs prélats romains et même un cardinal célèbre, mais il y manquait un revenant. Elle écrivit donc à Fougas un billet tout pétillant d'impatience et de curiosité pour le prier à souper chez elle. Fougas, qui partait le lendemain pour Danzig, prit une feuille de papier grand aigle et se mit en devoir de s'excuser poliment. Il craignait, ce cœur délicat et chevaleresque, qu'une soirée de conversation et de plaisir dans la compagnie des plus jolies femmes de l'Allemagne ne fût comme une infidélité morale au souvenir de Clémentine. Il chercha donc une formule convenable et écrivit « Trop indulgente beauté, je... » La muse ne lui dicta rien de plus. Il n'était pas en train d'écrire, il se sentait plutôt en humeur de souper. Ses scrupules se dissipèrent comme des nuages chassés par un joli vent de nord-est. Il endossa la redingote à brandebourgs et porta sa réponse lui-même. C'était la première fois qu'il soupait depuis sa résurrection. Il fit preuve d'un bel appétit et s'enivra quelque peu, mais non pas comme à son ordinaire. La baronne Marco Marcus, émerveillée de son esprit et de sa verve intarissable, le garda le plus longtemps qu'elle put. Et maintenant encore, elle dit à ses amis en leur montrant le portrait du colonel « Ah, il n'y a que ces officiers français pour faire la conquête du monde !» Le lendemain, il boucla une malle de veau noir qu'il avait achetée à Paris, toucha son argent au trésor et se mit en route pour Danzig. Il dormit en wagon parce qu'il avait soupé la veille. Un ronflement terrible l'éveilla. Il chercha le ronfleur, ne le trouva point autour de lui, ouvrit la porte du compartiment voisin, car les wagons allemands sont beaucoup plus commodes que les nôtres, et secoua un gros monsieur qui paraissait cacher tout un jeu d'orgue dans son corps. À l'une des stations, il but une bouteille de vin de Marsala et mangea 2 douzaines de sandwichs parce que le souper de la veille lui avait creusé l'estomac. À Danzig, il arracha sa malle noire aux mains d'un énorme filou qui s'apprêtait à la prendre. Il se fit conduire au meilleur hôtel de la ville, y commanda son souper et courut à la maison de M. et Mme Meisser. Ses amis de Berlin lui avaient donné des renseignements sur cette charmante famille. Il savait qu'il aurait affaire au plus riche et au plus avare des fripons. C'est pourquoi il prit le ton cavalier qui a pu sembler étrange à plus d'un lecteur dans le chapitre précédent. Malheureusement, il s'humanisa un peu trop lorsqu'il eut son million en poche. La curiosité d'étudier à fond les longues bouteilles jaunes faillit lui jouer un mauvais tour. Sa raison s'égara vers 1 heure du matin, si j'en crois ce qu'il a raconté lui-même. Il assure qu'après avoir dit adieu aux braves gens qu'il avait si bien traités, il se laissa tomber dans un puits profond et large, dont la margelle, à peine élevée au-dessus du niveau de la rue, mériterait au moins un lampion. Je m'éveillais, c'est toujours lui qui parle, dans une eau très fraîche et d'un goût excellent. Après avoir mangé une ou deux minutes en cherchant un point d'appui solide, je saisis une grosse corde et je remontai sans effort à la surface du sol qui n'était pas à plus de 40 pieds. Il ne faut que le poignet et un peu de gymnastique et ce n'est nullement un tour de force. En sautant sur le pavé, je me vis en présence d'une espèce de guetteur de nuit qui braillait les heures dans la rue et me demanda insolemment ce que je faisais là. Me le recelait l'importance et ce petit exercice me fit du bien en rétablissant la circulation du sang. Avant de retourner à l'auberge, je m'arrêtai sous un réverbère, j'ouvris mon portefeuille et je vis avec plaisir que mon million n'était pas mouillé. Le cuir était épais et le fermoir solide. D'ailleurs, j'avais enveloppé le bon de M. Meiser dans une demi-douzaine de billets de 100 francs, gras comme des moines. Ce voisinage l'avait préservé. Cette vérification faite, il rentra, se mit au lit et dormit à point fermé. Le lendemain, en s'éveillant, il reçut la note suivante émanée de la police de Nancy. Clémentine Pichon, 18 ans, fille mineure d'Auguste Pichon Hôtelier et de Léonie Francelot, mariée en cette ville le 11 janvier 1814, à Louis-Antoine Langevin, sans profession désignée. Le nom de Langevin est aussi rare dans le département que le nom de Pichon y est commun. À part l'honorable M. Victor Langevin, conseiller de préfecture à Nancy, on ne connaît que le nommé Langevin, Pierre dit Pierrot, meunier dans la commune de Vergaville, canton de Dieuze. Fougas sauta jusqu'au plafond en criant « J'ai un fils !» Il appela le maître d'hôtel et lui dit « Fais ma note et envoie mes bagages au chemin de fer. Prends mon billet pour Nancy, je ne m'arrêterai pas en route. Voici 200 francs que je te donne pour boire à la santé de mon fils. Il s'appelle Victor, comme moi. Il est conseiller de préfecture. Je l'aimerais mieux, soldat, mais n'importe. Ah, fais-moi d'abord conduire à la banque. Il faut que j'aille chercher un million qui est à lui. » Comme il n'y a pas de service direct entre Danzig et Nancy, il fut obligé de s'arrêter à Berlin. M. Hirtz, qu'il vit en passant, lui annonça que les sociétés savantes de la ville préparaient un immense banquet en son honneur, mais il refusa net. « Ce n'est pas, dit-il, que je méprise une occasion de boire en bonne compagnie, mais la nature a parlé, sa voix m'attire. » L'ivresse la plus douce à tous les cœurs bien-nés est celle de l'amour paternel. Pour préparer son cher enfant à la joie d'un retour si peu attendu, il mit son million sous enveloppe à l'adresse de M. Victor Langevin, avec une longue lettre qui se terminait ainsi « La bénédiction d'un père est plus précieuse que tout l'or du monde. » Victor Fougas. La trahison de Clémentine Pichon froissa légèrement son amour-propre, mais il en fut bientôt consolé. « Au moins, pensait-il, je ne serai pas forcé d'épouser une vieille femme quand il y en a une jeune à Fontainebleau qui m'attend. Et puis, mon fils a un nom, et même un nom très présentable. » Fougas est beaucoup mieux, mais Langevin n'est pas mal. Il débarqua le 2 septembre à 6 heures du soir dans cette belle grande ville un peu triste qui est le Versailles de la Lorraine. Son cœur battait à tout rompre. Pour se donner des forces, il dîna bien. Le maître de l'hôtel, interrogé au dessert, lui fournit les meilleurs renseignements sur M. Victor Langevin. Un homme encore jeune, marié depuis 6 ans, père d'un garçon et d'une fille, estimé dans le pays et bien dans ses affaires. « J'en étais sûr, » dit Fougas. Il se versa rasade d'un certain kirsch de la forêt noire qui lui parut délicieux avec des macarons. Ce soir-là, M. Langevin raconta à sa femme qu'en revenant du cercle à 10 heures, il avait été accosté brutalement par un ivrogne. Il le prit d'abord pour un malfaiteur et s'apprêta à se défendre. Mais l'homme se contenta de l'embrasser et s'enfuit à toutes jambes. Ce singulier accident jeta les deux époux dans une série de conjectures plus invraisemblables les unes que les autres. Mais comme ils étaient jeunes tous les deux et mariés depuis 7 ans à peine, ils changèrent bientôt de conversation. Le lendemain matin, Fougas, chargé de bonbons comme un bonnet de farine, se présenta chez M. Langevin. Pour se faire bien voir de ses deux petits-enfants, il avait écrémé la boutique du célèbre Lebègue qui est le boissier de Nancy. La servante, qui lui ouvrit la porte, demanda si c'était lui que monsieur attendait. « Ah bon, dit-il, ma lettre est arrivée. Oui, monsieur, hier matin, et vos malles? Oh, je les ai laissées à l'hôtel. Oh, monsieur ne sera pas content, votre chambre est prête là-haut. Merci, 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 prends ce billet de 100 francs pour la bonne nouvelle. Oh, monsieur, il n'y avait pas de quoi. Mais où est-il? Je veux le voir, l'embrasser, lui dire. Il s'habille, monsieur, et madame aussi. Et les enfants, mes chers petits-enfants? Ah, si vous voulez les voir, ils sont là, dans la salle à manger. Si je le veux, mais ouvre bien vite. » Il trouva que le petit garçon lui ressemblait, et il se réjouit de le voir en costume d'artilleur avec un sabre. Ses poches se vidèrent sur le parquet, et les deux enfants, à la vue de tant de bonnes choses, lui sautèrent au cou. « Oh, philosophe !» s'écria le colonel, « oseriez-vous nier la voix de la nature ?» Une jolie petite dame, toutes les jeunes femmes sont jolies à Nancy, accourut au cri joyeux de la marmaille. « Ma belle-fille !» écria Fougas en lui tendant les bras. La maîtresse du logis se recula prudemment et dit avec un fin sourire « Vous vous trompez, monsieur. Je ne suis ni votre, ni belle, ni fille. Je suis madame Langevin. »« Oh, que je suis bête !» pensa le colonel. « J'allais raconter devant ses enfants nos secrets de famille. De la tenue, Fougas. Tu es un monde distingué, où l'ardeur des sentiments les plus doux se cache sous le masque glacé de l'indifférence. » « Asseyez-vous, dit madame Langevin, j'espère que vous avez fait bon voyage. »« Oui, madame, à cela près que la vapeur me paraissait trop lente. »« Je ne vous savais pas si pressé d'arriver. »« Vous ne comprenez pas que je brûlais d'être ici. »« Tant mieux, c'est une preuve que la raison et la famille se sont fait entendre à la fin. »« Est-ce ma faute à moi si la famille n'a pas parlé plus tôt ?» L'important, c'est que vous l'ayez écouté. Nous tâcherons que vous ne vous ennuyiez pas à Nancy. Et comment le pourrais-je, tant que je demeurerai au milieu de vous? Merci. Notre maison sera la vôtre. Mettez-vous dans l'esprit que vous êtes de la famille. Dans l'esprit et dans le cœur, madame. Et vous ne songerez plus à Paris? « Paris, oh, je m'en moque comme de l'an 40. »« Je vous préviens qu'ici, l'on ne se bat pas en duel. »« Comment, vous savez déjà ?»« Oh, nous savons tout, et même l'histoire de ce fameux souper avec des femmes un peu légères. »« Comment diable l'avez-vous appris ?»« Ben, cette fois-là, écoutez, j'étais bien excusable. » M. Langevin parut à son tour, rasé de frais rubicon, un joli type de sous-préfet en herbe. « C'est admirable, pensa Fougas, comme nous nous conservons dans la famille. On ne donnerait pas 35 ans à ce gaillard-là, et il en a bel et bien 46. Par exemple, il ne me ressemble pas du tout, au tien de sa mère. »« Mon ami, dit Madame Langevin, Voici un mauvais sujet qui promet d'être bien sage. Soyez le bienvenu, jeune homme, dit le conseiller en serrant la main de Fougas. Cet accueil parut froid à notre pauvre héros. Il rêvait une pluie de baisers et de larmes, et ses enfants se contentaient de lui serrer la main. Mon enfant, monsieur, dit-il à l'angevin, il manque une personne à notre réunion. Quelque tort réciproque est d'ailleurs prescrit par le temps. Ne saurait élever entre nous une barrière insurmontable. Oserais-je vous demander la faveur d'être présenté à madame votre mère? Monsieur Langevin et sa femme ouvraient de grands yeux étonnés. Mais comment, monsieur, dit le mari, il faut que la vie de Paris vous ait fait perdre la mémoire. Ma pauvre mère n'est plus. Il y a déjà 3 ans que nous l'avons perdue. Le bon Fougas fondit en larmes. Oh, pardon, dit-il, oh, je ne le savais pas, pauvre femme. Je ne vous comprends pas, vous connaissiez ma mère? Ingrat. Drôle de garçon. Mais vos parents ont reçu une lettre de part. Quels parents? Votre père et votre mère. Bon, ça, qu'est-ce que vous me chantez? Ma mère était morte avant que la vôtre ne fût de ce monde. Madame, votre mère est morte. Oui, parbleu, en 89. Ah, comment, mais ce n'est pas madame, votre mère, qui vous envoie ici? Mais monsieur, monstre, c'est mon cœur de père qui m'y amène. Cœur de père, mais vous n'êtes donc pas le fils Jamin qui a fait des folies dans la capitale et qu'on envoie à Nancy pour suivre les cours de l'école forestière? Le colonel emprunta la voix du Jupiter tonnant et répondit « Je suis Fougas !»« Eh bien, mais si la nature ne te dit rien en ma faveur, fils ingrat, interroge les mânes de ta mère !» Parbleu, monsieur, s'écria le conseiller, nous pourrions jouer longtemps aux propos interrompus. Asseyez-vous là, s'il vous plaît, et dites-moi votre affaire. Marie, emmène les enfants. Fougas ne se fit point prier. Il conta le roman de sa vie, sans rien omettre, mais avec des ménagements infinis pour les oreilles filiales de monsieur Langevin. Le conseiller l'écouta patiemment, un homme désintéressé dans la question. « Monsieur, dit-il enfin, je vous ai pris d'abord pour un insensé. Maintenant, je me rappelle que les journaux ont donné quelques bribes de votre histoire, et je vois que vous êtes victime d'une erreur. Je n'ai pas 46 ans, mais 34. Ma mère ne s'appelle pas Clémentine Pichon, mais Marie Kerval. » Elle n'est pas née à Nancy, mais à Vannes. Elle était âgée de 7 ans en 1813. J'ai bien l'honneur de vous saluer. Oh, tu n'es pas mon fils, reprit Fougas en colère. Eh bien, tant pis pour toi, n'a pas qui veut un père du nom de Fougas. Et les fils du nom de Langevin, on n'a qu'à se baisser pour en prendre. Je sais où en trouver un. Qui n'est pas conseiller de préfecture, c'est vrai, qui ne met pas un habit brodé pour aller à la messe, mais qui a le cœur honnête et simple et qui se nomme Pierre, tout comme moi. Mais pardon, lorsqu'on met les gens à la porte, on doit au moins leur rendre ce qui leur appartient. Oh, je ne vous empêche pas de ramasser les bonbons que mes enfants ont semés à terre. C'est bien de bonbons qu'il s'agit. Mon million, monsieur! Quel million? Ben le million de votre frère. Non, enfin de celui qui n'est pas votre frère, du fils de Clémentine, de mon cher et unique enfant, seul rejeton de ma race, Pierre Langevin, dit Pierrot, meunier à Vergaville. Mais je vous jure, monsieur, que je n'ai pas de millions à vous ni à personne. Ose le nier, scélérat, quand je t'ai moi-même envoyé par la poste. Vous me l'avez peut-être envoyé, mais pour sûr, je ne l'ai pas reçu. Eh bien, des francs ta vie. Et il lui sauta à la gorge. Et peut-être la France eût-elle perdu ce jour-là un conseiller de préfecture si la servante était entrée avec deux lettres à la main. Fougas reconnut son écriture et le timbre de Merlin, déchira l'enveloppe et montra le bon sur la banque. « Voilà, dit-il, le million que je vous destinais, si vous aviez voulu être mon fils. Maintenant, il est trop tard pour vous rétracter. » « La nature m'appelle à Vergaville. Serviteur !» Le 4 septembre, Pierre Langevin, meunier de Vergaville, mariait Cadet Langevin, son second fils. La famille du meunier était nombreuse, honnête et passablement aisée. Il y avait d'abord le grand-père, un beau vieillard solide, qui faisait ses quatre repas et traitait ses petites indispositions par le vin de Bar ou de Thiaucourt. La grand-mère Catherine avait été jolie dans les temps et quelque peu légère, mais elle expiait par une surdité absolue le crime d'avoir écouté les galants. Monsieur Pierre Langevin, dit Pierrot, dit Gros Pierre, après avoir cherché fortune en Amérique, c'est un usage assez répandu dans le pays, était rentré au village comme un petit Saint-Jean, et Dieu sait les gorges chaudes qu'on fit de sa mésaventure. Les Lorrains sont gouailleurs au premier degré. Si vous n'entendez pas la plaisanterie, je vous conseillerais jamais de voyager dans leurs environs. Gros Pierre, piqué au vif et quasi furieux d'avoir mangé sa légitime, emprunta de l'argent à 10, acheta le moulin de Vergaville, travailla comme un cheval de la bougre dans les terres fortes et remboursa capital et intérêts. La fortune, qui lui devait quelques dédommagements, lui fournit gratis pro deo une demi-douzaine d'ouvriers superbes, si gros garçons que sa femme lui donna d'année en année. C'était réglé comme une horloge. Tous les ans, 9 mois, jour pour jour après la fête de Vergaville, la Claudine, dite Glaudine, en baptisait un. Seulement, elle mourut après le 6e pour avoir mangé 4 grands morceaux de quiche avant ses relevailles. Gros-Pierre ne se remaria point, attendu qu'il avait des ouvriers en suffisance, et il arrondit son bien tout doucement. Mais comme les plaisanteries durent longtemps au village, les camarades du meunier lui parlaient encore de ces fameux millions qu'il n'avait pas rapportés d'Amérique. Et Gros Pierre se fâchait tout rouge sous sa farine, ainsi qu'au premier jour. Le 4 septembre, donc, il mariait son cadette à une bonne grosse mère d'Altroff qui avait les joues fermes et violettes, et c'est un genre de beauté qu'on goûte assez dans le pays. La noce se faisait au moulin, vu que la mariée était orpheline de père et de mère et qu'elle sortait de chez religieuse de Molsheim. On vint dire à Pierre Langevin qu'un monsieur décoré avait quelque chose à lui dire. Et Fougas parut dans sa splendeur. « Mon bon monsieur, dit le meunier, je suis guère en train de parler d'affaires parce que nous avons bu un coup de vin blanc avant la messe. » « Mais nous allons en boire pas mal de rouge à dîner, si le cœur vous en dit, vous gênez pas. La table est longue, nous causerons après. Vous dites pas non, alors c'est oui. »« Ah, pour le coup, pense à Fougas, je ne me trompe pas. C'est bien la voix de la nature. J'aurais mieux aimé un militaire, mais ce brave agriculteur tout rond suffit à mon cœur. » Je lui devrais point les satisfactions de l'orgueil, mais n'importe, j'ai son amitié. Le dîner était servi, et la table plus chargée de viande que l'estomac de Gargantua. Gros Pierre, aussi glorieux de sa grande famille que de sa petite fortune, fit assister le colonel au dénombrement de ses fils. Et Fougas se réjouit d'apprendre qu'il avait 6 petits-enfants bienvenus. On le mit à la droite d'une petite vieille rabougrie qui lui fut présentée comme la grand-mère de ces gaillards-là. Dieu, que Clémentine lui parut changée! Excepté les yeux qui restaient vifs et brillants, il n'y avait plus rien de reconnaissable en elle. Voilà, pensa Fougas, comme je serais aujourd'hui si le brave Jean Maïssère ne m'avait pas desséché. Il souriait avec malice en regardant le grand-père Langevin, chef putatif de cette nombreuse famille. Pauvre vieux, murmurait Fougas, tu sais pas ce que tu me dois. On dîne bruyamment aux noces de village, c'est un abus que la civilisation ne réformera jamais, je l'espère bien. À la faveur du bruit, le colonel causa ou crut causer avec sa voisine. Clémentine, lui dit-il, elle leva les yeux et même le nez et répondit oui, monsieur. Ah, mon cœur ne m'a donc pas trompé. Vous êtes bien ma Clémentine. Oui, monsieur. Et tu m'as reconnue, brave et excellente femme. Oui, monsieur. Mais comment as-tu si bien caché ton émotion? Oh, que les femmes sont fortes. Je tombe du ciel au milieu de ton existence paisible, et tu me vois sans sourciller. Oui, monsieur. M'as-tu pardonné un crime apparent dont le destin fut seul coupable? Oui, monsieur. Merci, oh, merci. Quelle admirable famille autour de toi. Ce bon Pierre qui m'a presque ouvert les bras en me voyant paraître. C'est mon fils, n'est-il pas vrai? Oui, monsieur. Réjouis-toi, il sera riche. Il a déjà le bonheur, je lui apporte la fortune. 1 million sera son partage. Quelle ivresse, ô Clémentine, dans cette naïve assemblée, lorsque j'élèverai la voix pour dire à mon fils, « Tiens, 1 million est à toi. » Le moment est-il venu? Faut-il parler? Faut-il tout dire? Oh, oui, monsieur. Fougas se leva donc et réclama le silence. On supposa qu'il allait chanter une chanson et l'on se tut. Pierre Langevin, dit-il avec emphase, je reviens de l'autre monde et je t'apporte 1 million. Si Gros Pierre ne voulut point se fâcher, du moins il rougit et la plaisanterie lui sembla de mauvais goût. Mais quand Fougas annonça qu'il avait aimé la grand-maman dans sa jeunesse, le vieux père Langevin n'hésita point à lui lancer une bouteille à la tête. Le fils du colonel, ses magnifiques petits-fils et jusqu'à la mariée se levèrent en grand courroux et ce fut une belle bataille. Pour la première fois de sa vie, Fougas ne fut point le plus fort. Il craignait d'éborgner quelqu'un de sa famille. Le sentiment paternel lui ôta les 3/4 de ses moyens. Mais ayant appris dans la bagarre que Clémentine s'appelait Catherine et que Pierre Langevin était né en 1810, il reprit l'avantage, pocha 3 yeux, cassa 1 bras, déforma 2 nez, enfonça 4 douzaines de dents et regagna sa voiture avec tous les honneurs de la guerre. Mais diable soient les enfants, disait-il en courant la porte vers la station d'Avricourt. Oh, si j'ai un fils, qu'il me trouve. Chapitre 19. Il demande et accorde la main de Clémentine. Le 5 septembre à 10 heures du matin, Léon Renault, maigre, défait et presque méconnaissable, était aux pieds de Clémentine Sambuco dans le salon de sa tante. Il y avait des fleurs sur la cheminée, des fleurs dans toutes les jardinières. Deux grands coquins de rayons de soleil entraient par les fenêtres ouvertes. Un million de petits atomes bleuâtres jouaient dans la lumière et se croisaient, s'accrochaient au gré de la fantaisie, comme les idées dans un volume de M. Alfred Housset. Dans le jardin, les pommes tombaient, les pêches étaient mûres, les frelons creusaient des trous larges et profonds dans les poires de duchesse, les bigonias et les clématites fleurissaient, enfin une grande corbeille d'héliotropes, étalée sous la fenêtre de gauche, était dans tout son beau. Le soleil appliquait à toutes les grappes de la treille une couche d'or brunie. Le grand yucca de la pelouse, agité par le vent comme un chapeau chinois, entrechoquait sans bruit ses clochettes argentées. Mais le fils de M. Renaud était plus pâle et plus flétri que les rameaux des lilas, plus abattu que les feuilles du vieux cerisier. Son cœur était sans joie et sans espérance, comme les groseilliers sans feuilles et sans fruits. S'être exilé de la terre natale, avoir vécu 3 ans sous un climat inhospitalier, avoir passé tant de jours dans les mines profondes, tant de nuits sur un poêle de faïence avec beaucoup de punaises et passablement de bougiques, et se voir préférer un colonel de 25 louis qu'on a ressuscité soi-même en le faisant tremper dans l'eau. Tous les hommes ont éprouvé des déceptions, mais personne à coup sûr n'avait subi un malheur si peu prévu et si extraordinaire. Léon savait que la terre n'est pas une vallée de chocolat au lait ni de potage à la reine. Il connaissait la liste des infortunes célèbres, qui commence à la mort d'Abel assommé dans le paradis terrestre et se termine au massacre de Rubens dans la galerie du Louvre à Paris. Mais l'histoire qui nous instruit rarement ne nous console jamais. Le pauvre ingénieur avait beau se répéter que 1000 autres avaient été supplantés la veille du mariage et 100 000 autres le lendemain. La tristesse était plus forte que la raison, et 3 ou 4 cheveux follets commençaient à blanchir autour de ses tempes. Clémentine, disait-il, je suis le plus malheureux des hommes. En me refusant cette main que vous m'aviez promise, vous me condamnez à un supplice 100 fois pire que la mort. Hélas, que voulez-vous que je devienne sans vous? Il faudra que je vive seul, car je vous aime trop pour en épouser une autre. Depuis tantôt, 4 ans, toutes mes affections, toutes mes pensées sont concentrées sur vous. Je me suis accoutumé à regarder les autres femmes comme des êtres inférieurs, indignes d'attirer le regard d'un homme. Je ne vous parle pas des efforts que j'ai faits pour vous mériter. Ils portaient leur récompense en eux-mêmes. Et j'étais déjà trop heureux de travailler et de souffrir pour vous. Mais voyez la misère où votre abandon m'a laissé. Un matelot jeté sur une île déserte est moins à plaindre que moi. Il faudra que je demeure auprès de vous, que j'assiste au bonheur d'un autre, que je vous voie passer sous mes fenêtres au bras de mon rival. Ah, la mort serait plus supportable que ce supplice de tous les jours. Mais je n'ai pas même le droit de mourir. Mes pauvres vieux parents ont bien assez de peine. Que serais-je, grand Dieu, si je les condamnais à porter le deuil de leur fils? Cette plainte, ponctuée de soupirs et de larmes, déchirait le cœur de Clémentine. La pauvre enfant pleurait aussi, car elle aimait Léon de toute son âme, mais elle s'était interdite de le lui dire. Plus d'une fois, en le voyant à demi pâmé devant elle, elle fut tentée de lui jeter les bras autour du cou, mais le souvenir de Fougas paralysait tous les mouvements de sa tendresse. « Mais mon pauvre ami, lui disait-elle, Vous me jugez bien mal, si vous me croyez insensible à vos maux. Je vous connais, Léon, et cela depuis mon enfance. Je sais tout ce qu'il y a en vous de loyauté, de délicatesse, de nobles et de précieuses vertus. Depuis le temps où vous me portiez dans vos bras vers les pauvres, et où vous me mettiez un sou dans la main pour m'apprendre à faire l'aumône, je n'ai jamais entendu parler de bienfaisance tant penser aussitôt à vous. Lorsque vous avez battu un garçon deux fois plus grand que vous, qui m'avait pris ma poupée, j'ai senti que le courage était beau et qu'une femme était heureuse de pouvoir s'appuyer sur un homme de cœur. Tout ce que je vous ai vu faire depuis ce temps-là n'a pu que redoubler mon estime et ma sympathie. Mais croyez que ce n'est ni par méchanceté ni par ingratitude que je vous fais souffrir aujourd'hui. Mais là, je ne m'appartiens plus, je suis dominé. Je ressemble à ces automates qui se meuvent sans savoir pourquoi. Oui, je sens, moi, comme un ressort, plus puissant que ma liberté, et c'est la volonté d'autrui qui me mène. Si du moins j'étais sûr que vous serez heureuse, mais non, cet homme à qui vous m'immolez ne sentira jamais le prix d'une âme aussi délicate que la vôtre. C'est un brutal, un soudard, un ivrogne. Je vous en prie, Léon, souvenez-vous qu'il a droit à tout mon respect. Du respect à lui, et pourquoi? Je vous demande au nom du ciel ce que vous voyez de respectable dans la personne du sieur Fougas. Son âge, il est plus jeune que moi. Ses talents, il ne les a montrés qu'à table. Son éducation, elle est jolie. Ses vertus, je sais ce qu'il faut penser de sa délicatesse et de sa reconnaissance. Mais je le respecte, Léon, depuis que je l'ai vu dans son cercueil. C'est un sentiment plus profond que tout. Je ne l'explique pas, je le subis. Eh bien, respectez-le tant que vous voudrez. Cédez à la superstition qui vous entraîne. Voyez en lui un être miraculeux, sacré, échappé aux griffes de la mort pour accomplir quelque chose de grand sur la terre. Mais cela même, ma chère Clémentine, est une barrière entre vous et lui. Si Fougas est en dehors des conditions de l'humanité, si c'est un phénomène, un être à part, un héros, un demi-dieu, un fétiche, vous ne pouvez pas songer sérieusement à devenir sa femme. Moi, je ne suis qu'un homme pareil à tous les autres, né pour travailler, pour souffrir, et pour aimer, je vous aime. Aimez-moi. Polisson, dit Fougas en ouvrant la porte. Clémentine me poussa un cri. Léon se releva vivement. Mais déjà le colonel l'avait saisi par le fond de son vêtement de nankin. L'ingénieur fut enlevé, balancé comme un atome dans un des deux rayons de soleil et projeté au beau milieu des héliotropes avant même qu'il eût pensé à répondre un seul mot. Pauvre Léon, pauvres héliotropes! En moins d'une seconde, le jeune homme fut sur pied. Il épousseta la terre qui souillait ses genoux et ses coudes, s'approcha de la fenêtre et dit d'une voix douce mais résolue « Monsieur le colonel, je regrette sincèrement de vous avoir ressuscité, mais la sottise que j'ai faite n'est peut-être pas irréparable. À bientôt. Quant à vous, mademoiselle, je vous aime. » Le colonel haussa les épaules et se mit aux genoux de la jeune fille sur le coussin qui gardait encore l'empreinte de Léon. Mademoiselle Virginie Sambucco, attirée par le bruit, descendit comme une avalanche et entendit le discours suivant. Idole d'un grand cœur, Fougas revient à toi comme l'aigle à son aire. J'ai longtemps parcouru le monde à la poursuite d'un rang, d'un or et d'une famille que je brûlais de mettre à tes pieds. La fortune m'a obéi en esclave. Elle sait à quelle école j'ai appris l'art de la maîtriser. J'ai traversé Paris et l'Allemagne comme un météore victorieux que son étoile conduit. On m'a vu de toutes parts traité d'égal à égal avec les puissances et faire retentir la trompette de la vérité sous les lambris des rois. J'ai mis pied sur gorge à la vie de cupidité et je lui ai repris, du moins en partie, les trésors qu'elle avait dérobés à l'honneur trop confiant. Un seul bien m'est refusé. Ce fils que j'espérais revoir échappe aux yeux de lynx de l'amour paternel. Je n'ai pas retrouvé non plus l'antique objet de mes premières tendresses, mais qu'importe. Rien ne me manquera si tu me tiens lieu de tout. Qu'attendons-nous encore? Es-tu sourde à la voix du bonheur qui t'appelle? Transportons-nous dans l'asile des lois. Tu me suivras ensuite au pied des autels. Un prêtre consacrera nos nœuds et nous traverserons la ville, appuyés l'un sur l'autre, moi semblable au chêne qui soutient la faiblesse et toi pareil au lierre élégant qui orne l'emblème de la vigueur. Clémentine resta quelque temps sans répondre et comme étourdie par la rhétorique bruyante du colonel. « Monsieur Fougas, lui dit-elle, je vous ai toujours obéi, je promets encore de vous obéir toute ma vie. Si vous ne voulez pas que j'épouse le pauvre Léon, je renoncerai à lui. Je l'aime bien pourtant, et un seul mot de lui jette plus de troubles dans mon cœur que toutes les belles choses que vous m'avez dites. » « Bien, très bien !» s'écria la tante. « Quant à moi, monsieur, quoique vous ne m'ayez pas fait l'honneur de me consulter, je vous dirai ce que je pense. Ma nièce n'est pas du tout la femme qui vous convient. Fussiez-vous plus riche que monsieur de Rothschild et plus illustre que le duc de Malakoff, je ne conseillerais pas à Clémentine de se marier avec vous.
« Et pourquoi donc, chasse de Minerve ?»«
Parce que vous n'aimeriez qu'un jour !» Et au premier coup de canon, vous vous sauveriez à la guerre. Vous l'abandonneriez, monsieur, comme cette infortunée Clémentine dont on nous a confié les malheurs.
Morbleu, la tante, je vous conseille de la plaindre. 3 mois après Leipzig, elle épousait un nommé Langevin, à Nancy.
Vous dites?
Je dis qu'elle épousait un intendant militaire appelé Langevin.
À Nancy?
À Nancy même.
C'est bizarre.
C'est indigne.
Mais cette femme, cette jeune fille, son nom.
Ben, je vous l'ai dit 100 fois, Clémentine.
Mais Clémentine qui?
Clémentine Pichon.
Oh, mon Dieu! Mes clés, où sont mes clés? Oh, j'étais bien sûr de les avoir mises dans ma poche. Clémentine Pichon, monsieur Langevin, c'est impossible, ma raison s'égare. Et mon enfant, remue-toi donc, il s'agit du bonheur de toute ta vie. Où as-tu fourré mes clés? Ah, les voici.
Fougas se pencha à l'oreille de Clémentine et lui dit, est-elle sujette à ces accidents-là? On dirait que la pauvre demoiselle a perdu la tête. Mais Virginie Sambuco avait déjà ouvert un petit secrétaire en bois de rose. D'un regard infaillible, elle découvrit dans une liasse de papier une feuille jaunie par le temps.
« C'est bien cela, » dit-elle avec un cri de joie, « Marie-Clémentine Pichon, fille légitime d'Auguste Pichon, hôtelier rue des Merlettes, en cette ville de Nancy, mariée le 10 juin 1814 à Joseph Langevin, sous-entendant militaire. Est-ce bien elle, monsieur? Osez dire que ce n'est pas elle.
Ah, ça, mais par quel hasard avez-vous mes papiers de famille?
Oh, pauvre Clémentine, et vous l'accusez de trahison?
Vous ne comprenez donc pas que vous aviez été portée pour mort, qu'elle se croyait veuve, sans avoir été mariée, que...
c'est bon, je lui pardonne. Où est-elle? Je veux la voir, l'embrasser, lui dire...
Elle est morte, monsieur. Morte après 3 mois de mariage.
Ah, diable!
En donnant le jour à une fille.
Qui est ma fille? Oh, j'aurais bien aimé un garçon, mais qu'importe. Et où est-elle? Je veux la voir, l'embrasser, lui dire.
Elle n'est plus, hélas. Mais je vous conduirai sur sa tombe.
Mais comment diable la connaissez-vous?
Parce qu'elle avait épousé mon frère.
Sans mon consentement? Oh, n'importe. A-t-elle au moins laissé des enfants?
Un seul?
Un fils? Oh, il est mon petit-fils.
Non, une fille.
N'importe, elle est ma petite-fille. Oh, j'aurais mieux aimé un garçon, mais où est-elle? Je veux la voir, l'embrasser, lui dire.
Embrassez-la, monsieur. Elle s'appelle Clémentine, comme sa grand-mère, et la voici.
Elle? Voilà donc le secret de cette ressemblance. Ben alors, je ne peux pas l'épouser. N'importe, Clémentine dans mes bras, embrasse ton grand-père.
La pauvre enfant n'avait rien pu comprendre à cette rapide conversation, où les événements tombaient comme des tuiles sur la tête du colonel. On lui avait toujours parlé de M. Langevin comme de son grand-père maternel, et maintenant on semblait dire que sa mère était la fille de Fougas. Mais elle sentit au premier mot qu'elle ne pouvait plus épouser le colonel et qu'elle serait bientôt mariée à Léon Renault. Ce fut donc par un mouvement de joie et de reconnaissance qu'elle se précipita dans les bras du jeune vieillard. « Ah, monsieur, lui dit-elle, je vous ai toujours aimé et respecté comme un aïeul. »«
Et moi, ma pauvre enfant, je me suis toujours conduit comme une vieille bête. Tous les hommes sont des brutes et toutes les femmes sont des anges. Tu as deviné, avec l'instinct délicat de ton sexe, que tu me devais le respect, et moi, sot que je suis, n'ai rien deviné du tout. » Sacrebleu, sans la vénérable tante que voilà, j'aurais fait de belles besognes.
Non, dit la tante, vous auriez découvert la vérité en parcourant nos papiers de famille.
Est-ce que je les aurais seulement regardés? Dire que je cherchais mes héritiers dans le département de la Meurthe, quand j'avais laissé ma famille à Fontainebleau, imbécile, va. Mais n'importe, Clémentine, oh, tu seras riche. Tu épouseras celui que tu aimes. Où est-il, ce brave garçon? Je veux le voir, l'embrasser, lui dire.
Ben, hélas, monsieur, vous l'avez jeté par la fenêtre.
Moi? Ah, tiens, c'est vrai, vous ne m'en souvenez plus. Heureusement, il ne s'est pas fait de mal. Et je cours de ce pas réparer ma sottise. Vous vous marierez quand vous voudrez, les deux noces se feront ensemble. Ben, au fait, non, qu'est-ce que je dis? Je ne me marie plus. À bientôt, mon enfant, ma chère petite fille. Mademoiselle Sambuco, vous êtes une brave tante. Embrassez-moi.
Il courut à la maison de M. Renault, et Goton, qui le voyait venir, descendit pour lui barrer le passage.
N'êtes-vous pas honteux, lui dit-elle, de vous comporter ainsi avec ceux qui vous ont rendu la vie? « Ah, si c'était à refaire, on mettrait plus la maison sans dessus dessous pour vos beaux yeux. Madame pleure, monsieur s'arrache les cheveux. Monsieur Léon vient d'envoyer 2 officiers à votre recherche. Mais qu'est-ce que vous avez encore fait depuis ce matin ?»
Fougas la fit pirouetter sur elle-même et se trouva face à face avec l'ingénieur. Léon avait entendu le bruit d'une querelle. En voyant le colonel animé, l'œil en feu, il prévit quelque brutale agression et n'attendit pas le premier coup. Une lutte corps à corps s'engagea dans l'allée au milieu des cris de Goton, de M. Renaud et de la pauvre dame qui criait à l'assassin. Léon se débattait, frappait et lançait de temps à autre un vigoureux coup de poing dans le torse de son ennemi. Il succomba pourtant, le colonel finit par le renverser sur le sol et le tomber parfaitement, comme on dit à Toulouse. Alors il l'embrassa sur les deux joues et lui dit « Ah, scélérat d'enfant, je te forcerai bien de m'écouter. Je suis le grand-père de Clémentine. » Et je te la donne en mariage, et tu l'épouseras demain, si tu veux. Entends-tu? Relève-toi maintenant, et ne me donne plus de coups de poing dans l'estomac. Ce serait presque un parricide. » Mademoiselle Sambuco et Clémentine arrivèrent au milieu de la stupéfaction générale. Elles complétèrent le récit de Fougas, qui s'embrouillait dans la généalogie. Les témoins de Léon parurent à leur tour. Il n'avait pas trouvé l'ennemi à l'hôtel où il était descendu et s'apprêtait à rendre compte de leur ambassade. On leur fit voir un tableau de bonheur parfait et Léon les pria d'assister à la noce. « Amis, leur dit Fougas, vous verrez la nature désabusée bénir les chaînes de l'amour. » Dernier chapitre 20. Un coup de foudre dans un ciel pur. Mademoiselle Virginie Sambuco a l'honneur de vous faire part du mariage de Mademoiselle Clémentine Sambuco, sa nièce, avec Monsieur Léon Renaud, ingénieur civil. Monsieur et Madame Renaud ont l'honneur de vous faire part du mariage de Monsieur Léon Renaud, leur fils, avec Mademoiselle Clémentine Sambuco. Et vous prie d'assister à la bénédiction nuptiale qui leur sera donnée le 16 septembre 1859 en l'église de Saint-Maxence, leur paroisse, à 11h précise. Fougas voulait absolument que son nom figurât sur les lettres de part. On eut toutes les peines du monde à le guérir de cette fantaisie. Madame Renaud le sermonna deux grandes heures. Elle lui dit qu'aux yeux de la société, comme aux yeux de la loi, Clémentine était la petite-fille de M. Langevin, que d'ailleurs M. Langevin s'était conduit très honorablement lorsqu'il avait légitimé par le mariage une fille qui n'était pas la sienne, enfin que la publication d'un tel secret de famille serait comme un scandale d'outre-tombe et flétrirait la mémoire de la pauvre Clémentine Pichon. Le colonel répondait avec la chaleur d'un jeune homme et l'obstination d'un vieillard. « Mais la nature a ses droits. Ils sont antérieurs aux conventions de la société et mille fois plus augustes. L'honneur de celle que j'appelais mon églée m'est plus cher que tous les trésors du monde et je fendrai l'âme en quatre aux téméraires qui prétendraient la flétrir. En cédant à l'ardeur de mes voeux, elle s'est conformée aux mœurs d'une grande époque où la brièveté de la vie et la permanence de la guerre simplifiaient toutes les formalités. Enfin, je ne veux pas que mes arrières petits-fils qui vont naître ignorent que la source de leur sang est dans les veines de Fougas. Votre Langevin est un intrus qui s'est glissé frauduleusement dans ma famille. Un intendant, c'est presque un ripincel. Je foule aux pieds la cendre de Langevin. » L'obstiné ne céda point aux raisons de Madame Renaud, mais il se laissa vaincre aux prières de Clémentine. La jeune créole le câlinait avec une grâce irrésistible. « Mon bon grand-père par-ci, mon joli petit grand-père par-là, mon vieux baby de grand-père, nous nous remettrons au collège si vous n'êtes pas raisonnable. » Elle s'asseyait familièrement sur les genoux de Fougas et lui donnait de petites tapes d'amitié sur les joues. Le colonel faisait la grosse voix, puis son cœur se fondait de tendresse, et il se mettait à pleurer comme un enfant. Ces familiarités n'ajoutaient rien au bonheur de Léon Renaud. Je crois même qu'elles tempéraient un peu sa joie.
Assurément, il ne doutait ni de l'amour de sa fiancée, ni de la loyauté de Fougas. Il était forcé de convenir qu'entre un grand-père et sa petite-fille, l'intimité est de droit naturel et ne peut s'offenser personne. Mais la situation était si nouvelle et si peu ordinaire qu'il lui fallut un peu de temps pour classer ses sentiments et oublier ses chagrins. Ce grand-père, qu'il avait payé 500 francs, à qui il avait cassé l'oreille, pour qui il avait acheté un terrain au cimetière de Fontainebleau, cet ancêtre plus jeune que lui, qu'il avait vu ivre, qu'il avait trouvé plaisant, puis dangereux, puis insupportable, ce chef vénérable de la famille qui avait commencé par demander la main de Clémentine et fini par jeter dans les héliotropes son futur petit-fils, ne pouvait obtenir d'emblée un respect sans mélange et une amitié sans restriction. Monsieur et Madame Renaud prêchaient à leur fils la soumission et la déférence. Ils lui représentaient Monsieur Fougas comme un parent aménagé. « Quelques jours de patience, disait la bonne mère, il ne résistera pas longtemps avec nous. C'est un soldat qui ne saurait vivre hors de l'armée, non plus qu'un poisson hors de l'eau. » Mais les parents de Léon, dans le fond de leur âme, gardaient le souvenir amer de tant de chagrin et d'angoisse. Fougas avait été le fléau de la famille. Les blessures qu'il avait faites ne pouvaient se cicatriser en un jour. Gothon elle-même lui gardait rancune sans le dire. Elle poussait de gros soupirs chez Mademoiselle Sambuco en travaillant au festin des noces. « Oh, mon pauvre Célestin, disait-elle à son acolyte, quel petit scélérat de grand-père nous aurons là !» Le seul qui fut parfaitement à son aise était Fougas. Il avait passé l'éponge sur ses fredaines, lui. Il ne gardait aucune rancune à personne de tout le mal qu'il avait fait. Très paternel avec Clémentine, très gracieuse avec monsieur et madame Renaud, il témoignait à Léon l'amitié la plus franche et la plus cordiale. « Mon cher garçon, lui disait-il, je t'ai étudié, je te connais, je t'aime bien. Tu mérites d'être heureux, tu le seras. Tu verras bientôt qu'en m'achetant pour 25 napoléons, tu n'as pas fait une mauvaise affaire. Si la reconnaissance était bannie de l'univers, elle trouverait un dernier refuge dans le cœur de Fougas. » 3 jours avant le mariage, Maître Bonnivet apprit à la famille que le colonel était venu dans son cabinet pour demander communication du contrat. Il avait à peine jeté les yeux sur le papier de timbré et craqua en morceaux dans la cheminée. « Monsieur le croque-note, avait-il dit, faites-moi le plaisir de recommencer votre chef-d'œuvre. La petite fille de Fougas ne se marie pas avec 8 000 francs de rente. » La nature et l'amitié lui donnent 1 million, que voici. » Là-dessus, il tira de sa poche un bon d'1 million sur la banque, traversa fièrement l'étude en faisant craquer ses bottes, et jeta un billet de 1 000 francs sur le pupitre d'un clerc, en criant de sa plus belle voix. « Enfant de la basoche, voici pour boire à la santé de l'empereur et de la grande armée. » La famille Renaud se défendit énergiquement contre cette libéralité. Clémentine, avertie par son futur, eut une longue discussion devant Mademoiselle Sambuco avec le jeune et terrible grand-père. Elle lui remontra qu'il avait 24 ans, qu'il se marierait un jour, que son bien appartenait à sa future famille. « Je ne veux pas, dit-elle, que vos enfants m'accusent de les avoir dépouillés. « Gardez vos millions pour mes petits-oncles et mes petites-tantes. » Mais pour le coup, Fougas ne voulut pas rompre d'une semelle. « Est-ce que tu te moques de moi ?» dit-il à Clémentine. « Penses-tu que je ferais la sottise de me marier maintenant ?»« Oh, je ne te promets pas de vivre comme un trappiste, mais à mon âge et bâti comme je le suis, on trouve à qui parler dans les garnisons. » Sans épouser personne. Mars n'emprunte pas le flambeau de l'Hyménée,
pour éclairer les petites promenades de Vénus. Pourquoi l'homme forme-t-il des nœuds pour être père? Ben, je le suis au comparatif. Et dans un an, si notre brave Léon se conduit en homme, j'attraperai le superlatif. Bisaïeul, oh! C'est un joli grade pour un troupier de 25 ans. À 45 ou 50, je serai trisaïeul. À 70, la langue française n'a plus de mots pour dire ce que je deviendrai, mais nous en commanderons un des bavards de l'Académie. Crains-tu que je manque de rien dans mes vieux jours? J'ai ma solde d'abord et ma croix d'officier. Dans l'âge des Anchises et des Nestors, j'aurai ma pension de retraite. Ajoute-y les 250 000 francs du roi de Prusse, et tu verras que j'ai non seulement le pain, mais le rata jusqu'au terme de ma carrière. Plus une concession à perpétuité que ton mari a payée d'avance dans le cimetière de Fontainebleau. Avec cela et les goûts simples, on est sûr de ne pas manger son fond. Bon gré mal gré, il fallut en passer par tout ce qu'il voulut et accepter son million. Cet acte de générosité fit grand bruit dans la ville, et le nom de Fougas, déjà célèbre à tant de titres, en acquit un nouveau prestige. Tout Fontainebleau voulut assister au mariage de Clémentine. On y vint de Paris. Les témoins de la mariée étaient le maréchal le duc de Solferino et l'illustre Karl Nibor, élu depuis quelques jours à l'Académie des sciences. Léon s'en tint modestement aux vieux amis qu'il avait choisis dans le principe, M. Audret, l'architecte, et M. Bonnivet, le notaire. Le maire revêtit son écharpe neuve. Le curé adressa aux jeunes époux une allocution touchante sur l'inépuisable bonté de la Providence, qui fait encore un miracle de temps à autre en faveur des vrais chrétiens. Fougas, qui n'avait pas rempli ses devoirs religieux depuis 1801, trempa deux mouchoirs de ses larmes. « On perd de vue ce qu'on estime le plus, » disait-il en sortant de l'église. « Mais Dieu et moi nous sommes faits pour nous entendre. Après tout, qu'est-ce que Dieu ? Un Napoléon, un peu plus universel. » Un festin pantagruélique présidé par Mademoiselle Virginie Sambuco en robe de soie puce suivit de près la cérémonie. 24 personnes assistaient à cette fête de famille, entre autres le nouveau colonel du 23e et M. Dumarnay, à peu près guéri de sa blessure. Fougas leva sa serviette avec une certaine anxiété. Il espérait que le maréchal lui aurait apporté son brevet de général de brigade. Sa figure mobile trahit un vif désappointement en présence de l'assiette vide. Le duc de Solferino, qui venait de s'asseoir à la place d'honneur, aperçut ce jeu de physionomie et dit tout haut « Ne t'impatiente pas, vieux camarade, je sais ce qui te manque. Il n'a pas tenu à moi que la fête ne fût complète. Le ministre de la guerre était absent lorsque j'ai passé chez lui, alors on m'a dit dans les bureaux que ton affaire était accrochée par une question de forme, mais que tu recevrais dans les 24 heures une lettre du cabinet. » « Le diable soit le plumitif !» s'écria Fougas. « Ils ont tout, depuis mon acte de naissance jusqu'à la copie de mon brevet de colonel. Tu verras qu'il leur manque un certificat de vaccine ou quelques paperasses de ciliard. »« Hé, patient, jeune homme, tu as le temps d'attendre. C'est pas comme moi, sans la campagne d'Italie qui m'a permis d'attraper le bâton. » Il me fendait l'oreille comme un cheval de réforme, sous le futile prétexte que j'avais 65 ans. Tu n'en as pas 25 et tu vas passer général de brigade. L'empereur te l'a promis devant moi. Dans 4 ou 5 ans d'ici, tu auras les étoiles d'or, à moins que le guignon ne s'en mêle, après quoi il te vaudra plus qu'un commandement en chef et une campagne heureuse, pour passer maréchal de France et sénateur, ce qui ne gâte rien. « Oui, répondit Fougas, j'arriverai. Non seulement parce que je suis le plus jeune de tous les officiers de mon grade, parce que j'ai fait la grande guerre et suivi les leçons du maître dans les champs de Bellone, mais surtout parce que le destin m'a marqué de son empreinte. Pourquoi les boulets m'ont-ils épargné dans plus de 20 batailles? Pourquoi ai-je traversé les océans de bronze et de fer sans que ma peau reçût une égratignure? C'est que j'ai une étoile, comme lui. La sienne était plus grande, c'est sûr, mais elle est allée s'éteindre à Sainte-Hélène, et la mienne brille encore au ciel. Si le dictor, docteur Dibor, m'a ressuscité avec quelques gouttes d'eau chaude, c'est que ma destinée n'était pas encore accomplie. Si la volonté du peuple français rétablit le trône impérial, c'est pour fournir une série d'occasions à mon courage dans la conquête de l'Europe que nous allons recommencer. Vive l'empereur et moi! Je serai duc ou prince avant 10 années, et même, pourquoi pas, on tâchera d'être présent à l'appel le jour de la distribution des couronnes. En ce cas, j'adopte le fils aîné de Clémentine. Nous l'appelons Pierre-Victor II, et il me succède sur le trône comme Louis XV à son bisaïeul Louis XIV. Comme il achevait cette tirade, un gendarme entra dans la salle à manger, demanda M. le colonel Fougas et lui remit un pli du ministre de la guerre. « Parbleu ! » s'écria le maréchal. « Il serait plaisant que ta promotion arrivât au bout d'un pareil discours. Oh, c'est pour le coup que nous nous prosternerions devant ton étoile. Les rois mages ne seraient que de la Saint-Jean auprès de nous. » « Lis toi-même, » dit-il au maréchal en lui tendant la grande feuille de papier. « Ou plutôt, non, j'ai toujours regardé la mort en face. » Je ne détournerai pas mes yeux de ce tonnerre de chiffon qui me tue. »
Monsieur le colonel, en préparant le décret impérial qui vous élevait au grade de général de brigade, je me suis trouvé en présence d'un obstacle insurmontable qui est votre acte de naissance. Il résulte de cette pièce que vous êtes né en 1789, et que vous avez aujourd'hui 70 ans accomplis. Or, la limite d'âge étant fixée à 60 ans pour les colonels, à 62 pour les généraux de brigade et à 65 pour les divisionnaires, je me vois dans l'absolue nécessité de vous porter au cadre de réserve avec le grade de colonel. Je sais, monsieur, combien cette mesure est peu justifiée pour votre âge apparent, et je regrette sincèrement que la France soit privée des services d'un homme de votre vigueur et de votre mérite. Il est d'ailleurs certain qu'une exception en votre faveur ne provoquerait aucune réclamation dans l'armée et n'exciterait que des sympathies, mais la loi est formelle, et l'empereur lui-même ne peut la violer ni l'éluder. L'impossibilité qui en résulte est tellement absolue que, si dans votre ardeur de servir le pays, vous consentiez à rendre vos épaulettes pour recommencer une nouvelle carrière, votre engagement ne pourrait être reçu dans aucun des régiments de l'armée. Il est heureux, monsieur, que le gouvernement de l'empereur ait pu vous fournir des moyens d'existence en obtenant de son Altesse royale, le régent de Prusse, l'indemnité qui vous était due. Car il n'y a pas non plus d'administration civile où l'on puisse faire entrer, même par faveur, un homme de 70 ans. Vous objecterez très justement que les lois et les règlements datent d'une époque où les expériences sur la revivification des hommes n'avaient pas encore donné des résultats favorables. Mais la loi est faite pour la généralité et ne doit pas tenir compte des exceptions. On verrait sans doute à la modifier si les cas de résurrection se présentaient dans certains nombres, agréés, etc. Un morne silence accueillit cette lecture. Le man Tessel Fares des légendes orientales
ne produisit pas un effet plus foudroyant. Le gendarme était toujours là, debout, dans la position du soldat sans armes, attendant le récépissé de Fougas. Le colonel demanda une plume et de l'encre, signa le papier, le rendit, donna pour boire au gendarme et lui dit avec une émotion contenue « T'es heureux, toi, on ne te défend pas de servir ton pays. » « Eh bien, reprit-il en s'adressant au maréchal, qu'est-ce que tu dis de ça ? Que veux-tu que je t'en dise, mon pauvre vieux ? Cela me casse bras et jambes. Il n'y a pas à discuter contre la loi, elle est formelle. Ce qui est bête à nous, c'est d'y avoir pas songé plus tôt. Et qui diable, en présence d'un gaillard comme toi, aurait pensé à l'âge de la retraite ? Les deux colonels avouèrent que cette objection n'aurait été pas venue à l'esprit, mais une fois qu'on l'avait soulevé, ils ne voyaient rien à répondre. Ni l'un ni l'autre n'aurait pu engager Fougas comme simple soldat, malgré sa capacité, sa force physique et sa tournure de 24 ans. « Mais alors, s'écria Fougas, qu'on me tue ? Je ne veux pas me mettre à peser du sucre ou à planter les choux. C'est dans la carrière des armes que j'ai fait mes premiers pas. Il faut que j'y reste ou que je meure. Que faire? Que devenir? Prendre du service à l'étranger? Oh, jamais. Le destin de Moreau est encore présent à mes yeux. Oh, fortune, que t'ai-je fait pour être précipité si bas lorsque tu te préparais à m'élever si haut? » Clémentine essaya de le consoler par de bonnes paroles. Ben « Vous resterez auprès de nous, lui dit-elle. Nous vous trouverons une jolie petite femme. Vous élèverez vos enfants. À vos moments perdus, vous écrirez l'histoire des grandes choses que vous avez faites. Rien ne vous manque, jeunesse, santé, fortune, famille, tout ce qui fait le bonheur des hommes est à vous. Pourquoi donc? Ne seriez-vous pas heureux ?» Léon et ses parents lui tinrent le même langage. On oubliait tout en présence d'une douleur si vraie et d'un abattement si profond. Il se releva petit à petit et chanta même au dessert une chanson qu'il avait préparée pour la circonstance. « Époux, épouse fortunée, vous allez dans cet heureux jour à la torche de l'Hyménée, brûler les ailes de l'amour. Il faudra, petit Dieu volage, que vous restiez à la maison, enchaîné par le mariage de la beauté et de la raison. Il fera son unique étude d'allier les plaisirs aux mœurs. Il perdra l'errante habitude de voltiger de fleur en fleur. Ou plutôt non, chez Clémentine il a trouvé roses et lys. Et déjà le fripon butine ainsi au jardin de Cypris. » On applaudit beaucoup cette poésie arriérée, mais le pauvre colonel souriait tristement, parlait peu et ne se grisait pas du tout. L'homme à l'oreille cassée ne se consolait point d'avoir l'oreille fendue. Il prit part au divertissement de la journée, mais ce n'était plus le brillant compagnon qui animait tout de sa mâle gaieté. Le maréchal le prit à part dans la soirée et lui dit « À quoi penses-tu ? » « Oh, je pense aux vieux qui ont eu le bonheur de tomber à Waterloo, la face tournée vers l'ennemi. Le vieil imbécile d'Allemand qui m'a confié pour la postérité m'a rendu un fichu service. » Vois-tu le blanc, un homme doit vivre avec son époque. Plus tard, c'est trop tard. Ah, ça, Fougas, pas de bêtises. Y a rien de désespéré, que diable. J'irai demain chez l'empereur, on verra, on cherchera des hommes comme toi. Là, la France n'en a pas dans la douzaine pour les jeter au linge sale. Merci. Tu es un bon, un vieux, un vrai. Nous étions 500 000 dans ton genre en 1812. Il n'en reste plus que deux.
ou pour mieux dire, un et demi.
Vers 10 heures du soir, messieurs Rollon, monsieur Dumarnay et Fougas reconduisirent le maréchal au chemin de fer. Fougas embrassa son camarade et lui promit d'être sage. Le train partit, les trois colonels revinrent à pied jusqu'à la ville. En passant devant la maison de monsieur Rollon, Fougas dit à son successeur:
« Vous n'êtes guère hospitalier aujourd'hui, vous ne nous offrez pas un petit verre de cette filo de vie d'Andaïel ?»«
Oh, je pensais que vous n'étiez pas en train de boire, » dit monsieur Rollon. « Vous n'avez rien pris dans votre café ni après. » « Mais bon ton !»«
La soif m'est revenue au grand air. »
« C'est bon signe !» Il trinqua mélancoliquement et mouilla à peine ses lèvres dans son verre. Mais il s'arrêta quelque temps auprès du drapeau, mania la rampe, développa la soie, compta les trous que les balles et les boulets avaient laissés dans l'étoffe, et ne répandit pas une larme.
« Décidément, dit-il, l'eau de vie me prend à la gorge, je ne suis pas un homme aujourd'hui. Bonsoir, messieurs.
Attendez, nous allons vous reconduire.
Oh, mon hôtel est à deux pas. »
C'est égal, mais quelle idée avez-vous eue de rester à l'hôtel quand vous avez ici deux maisons à votre service?
Oh, si je déménage demain matin.
Le lendemain matin, vers 11 heures, l'heureux Léon était à sa toilette lorsqu'on lui apportait une dépêche télégraphique. Il l'ouvrit sans voir qu'elle était adressée à M. Fougas et il poussa un cri de joie. Voici le texte laconique qui lui apportait une si douce émotion. À Monsieur Colonel Fougas, Fontainebleau. Je sors, cabinet empereur. Tu, général de brigade au titre étranger, en attendant mieux. Plus tard, corps législatif modifiera loi Leblanc. Léon s'habilla à la hâte, courut à l'hôtel du cadran bleu, monta chez le colonel et le trouva mort dans son lit. On raconta dans Fontainebleau que M. Nibor avait fait l'autopsie et constaté des désordres graves causés par la dessiccation. Quelques personnes assurèrent que Fougas s'était suicidé. Il est certain que Maître Bonnivet reçut par la petite poste une sorte de testament ainsi conçu. Je lègue mon cœur à la patrie, mon souvenir à la nature, mon exemple à l'armée, ma haine à la perfide Albion, 1000 écus à Goton et 200 000 francs au 23e de ligne. Vive l'empereur quand même, Fougas. Ressuscité le 17 août entre 3h et 4h de relevée, il mourut le 17 du mois suivant, sans appel. Sa seconde vie avait duré un peu moins de 31 jours. Mais il employa bien son temps. C'était une justice à lui rendre. Il repose dans le terrain que le fils de M. Renaud avait acheté à son intention. Sa petite-fille Clémentine a quitté le deuil depuis tantôt une année. Elle est aimée. Elle est heureuse et Léon n'aura rien à se reprocher si elle n'a pas beaucoup d'enfants.